Bien, je crois qu'on va commencer sans tarder. Notre sujet d'aujourd'hui est la question de la transition démocratique, transition ou pas transition, démocratie ou pas démocratie, Chine et démocratie, démocratie et Chine. En tout cas, c'est d'une façon le plus démocratique possible que nous discuterons de tout cela, en nous efforçant de penser à la fois, d'une part, l'inévitable colère devant des excès qui peuvent se présenter, et d'autre part, la réflexion sur ce qui se passe vraiment en profondeur. On n'est pas obligé de considérer que les massacres auxquels, enfin, que les 200 morts, disons, au Tibet, et que les 7000 victimes de condamnation à mort définissent l'entièreté, disons, de la situation en Chine et définissent aussi l'avenir de cette situation. Donc, on va s'efforcer de à la fois en reconnaissant ce qui se passe, et je crois que Madame Delmas Marty, que je vais présenter dans un instant, fera une partie du bilan. On va s'efforcer à la fois de reconnaître ce qui se passe, de le dire, et en même temps de chercher à penser l'avenir en impliquant évidemment aussi le passé. Deuxièmement, on va chercher à réfléchir sur cette présence, cet avenir, en analysant les canaux concrets du travail de l'histoire. On ne va pas se contenter de formules, d'incantations. On va chercher à prendre des exemples, à dire des choses précises, de façon qu'on puisse s'efforcer d'évaluer, à travers la discussion aussi, s'il y a ou non progrès, s'il y a ou non bourgeon, s'il y a ou non raison d'espérer, quels sont aussi les moyens que le pouvoir chinois prend pour bien souvent plier à son avantage des instruments qui peuvent servir en principe à la démocratie. Le cas de l'Internet est tout à fait caractéristique. Alors je voudrais vous présenter, et j'ai grande fierté à vous présenter ici, deux collègues. Tout d'abord, une collègue extrêmement prestigieuse qui a décidé il y a quelques années de travailler sur la Chine et publiquement, je lui dis bienvenue, bienvenue encore. Il est tout à fait inacceptable que des spécialistes d'un pays prétendent de la langue d'un pays, prétendent au monopole, disons. Au contraire, c'est au croisement des principes d'analyse qu'il faut faire confiance. Donc, Madame Delmas Marty est une juriste qui, depuis longtemps, cherche un peu à placer sa réflexion sur le droit au croisement, disons, des aspirations générales au changement et des grandes inquiétudes sur l'Europe, sur la mondialisation et plus récemment, donc, sur la Chine. Et donc, c'est un peu une forme de vent frais pour nous que de voir arriver les questionnements d'une spécialiste du droit ouverte, hein, parce que c'est quand même votre particularité, et qui a donc travaillé à la fois sur la Chine depuis quelques années et avec les Chinois, puisqu'elle a formé toute une génération de thésards chinois. Pour ce qui concerne ses travaux sur la Chine, vous vous référerez notamment à un gros livre, mais qui est un livre destiné à rester dans les bibliothèques, sur la Chine et son droit, je crois, ou la Chine et la démocratie, je crois, ou Chine et démocratie, qu'elle a co-dirigé avec Pierre-Étienne Ville, aux Presses universitaires de France, je crois.
Chez Fayard,
pardon. Et puis alors, il y a mon vieil ami Alain Roux, si je commence à parler de lui, on est encore demain matin, il faut que je me surveille. C'est un vieux collègue, on a beaucoup polémiqué, qui, disons, parce que nous ne sommes pas des mêmes horizons, disons, mais c'est quelqu'un qui a fait des travaux, enfin à la fois qui a eu un vrai engagement social, puisqu'il a été secrétaire général du SNESUP, et après tout, c'est quand même à son avantage. C'est bien quand même, hein,
on
à son avantage. Hein.
On en parle.
Voilà,
en parle.
Voilà.
Ça tourne.
Il a fait aussi des vraies recherches dans un état d'esprit qui m'est arrivé de critiquer à l'époque, mais enfin, dont le résultat était tout à fait incontestable sur le mouvement ouvrier à Shanghai, hein, fin des années 20 et début des années 30, c'est ça, hein,
oui.
Voilà. Et enfin, ensuite, toute une série d'ouvrages dans lesquels j'ai plaisir à repérer une évolution vers ce que j'estime être une évolution vers mes positions.
Donc, c'est, vous voyez, bien, c'est bien.
C'est la
ça.
Raison pour laquelle il est là, donc. Bon, voilà. Et Alain Roux, vous pourrez trouver son dernier livre sur la Chine au XXe siècle, qui est notamment là-haut. Hein. Moi-même, je suis donc Jean-Luc Domnac et j'ai beaucoup travaillé sur la Chine et je suis revenu il y a 2 ans d'un séjour de 5 ans en Chine populaire. Et j'ai vraiment grand plaisir à présenter ce débat. Alors, je vais d'abord donner la parole à Madame Delmas Marty, qui va, pendant une vingtaine de minutes, traiter le problème Chine et démocratie d'un point de vue plutôt juridique. Ensuite, je donnerai la parole à Alain Roux. Je me permettrai d'ajouter quelques mots. Ensuite, nous ouvrirons le débat avec la salle et nous nous efforcerons à la fin de faire un dernier tour de table ici et d'apporter les conclusions qui nous paraissent être les moins mauvaises. Donc voilà, Madame Delmas Marty, à vous.
Merci. Je suis heureuse de vous retrouver puisque nous nous sommes connus en fait il y a 10 ans dans un voyage en Chine et nous nous retrouvons comme il va de soi pour parler de la Chine. Alors comme juriste, je vais essayer de traiter la question qui nous est posée. Y a-t-il une transition démocratique en Chine à travers le rôle du droit? Ce qui me paraît, il est peut-être pas branché tout simplement.
Approchez-le.
Si. Ils ont l'air.
Voilà. Comme ça, vous entendez?
Ils ont l'air.
Voilà.
Vous entendez là? D'accord. Donc, je vais essayer de répondre à la question, en tout cas explorer la question, y a-t-il une transition démocratique en Chine, à travers le rôle du droit? Ce qui s'explique assez aisément, cette approche juridique, parce que la connexion entre démocratie et droit reste une connexion absolument fondamentale, quelles que soient les variantes d'un système à l'autre. Je crois qu'on peut dire qu'un système démocratique est inséparable, d'une forme ou d'une autre, d'état de droit. Seulement, cette notion d'état de droit, elle est ambiguë. Il ne suffit pas de faire des lois pour garantir un état de droit. Et il peut même sembler provocateur d'évoquer le rôle du droit dans un pays comme la Chine, où par exemple, les avocats sont encore aujourd'hui poursuivis, dans certains cas, s'ils s'attachent à défendre, disons, les gens ordinaires contre différents abus de l'administration. Il y a encore dans le code pénal chinois un délit pénal de falsification de pièces qui est utilisé, qui fait encourir des peines de prison à ces fameux avocats aux pieds nus. D'ailleurs, l'expression d'avocat aux pieds nus, elle est révélatrice de la vulnérabilité de certains de ces avocats. Alors, pour que le droit puisse contribuer à la démocratisation du régime politique, il faut que ce droit ne soit pas simplement un instrument au service du pouvoir politique. Il faut que ce droit devienne une référence opposable, comme on dit, au pouvoir. D'ailleurs, je dirais au pouvoir politique, mais aussi au pouvoir économique. Pour ça, il faut 3 conditions. Il faut la légalité, c'est-à-dire il faut que la loi soit élaborée de façon démocratique, ce qui nous renvoie au problème politique de la composition du Parlement. Et puis, ça nous renvoie au rôle aussi du Parlement par rapport au pouvoir exécutif. Et puis, il faut une certaine qualité de la loi, c'est-à-dire il faut des textes précis, accessibles, prévisibles. Mais tout cela ne suffit pas encore pour faire un état de droit, parce que la loi, c'est bien, elle est souvent parfaite quand on la lit, mais encore faut-il l'appliquer. Donc il y a une 2e condition, c'est la garantie judiciaire. Il faut une justice indépendante et impartiale, il faut que les avocats puissent s'exprimer, et il faut surtout que les juges ne soient pas dépendants de l'exécutif et qu'ils jugent avec impartialité. Et puis il y a une 3e condition... qui est le respect des droits de l'homme, des droits fondamentaux, c'est-à-dire leur opposabilité au pouvoir, pouvoir invoquer contre l'État, contre le pouvoir politique, la violation de tel ou tel droit fondamental. Ça fait partie aussi de l'État de droit. Alors, pour arriver à cette construction, Il faut dire qu'en Europe, ça a pris plusieurs siècles. En France, pour prendre un exemple qui nous concerne directement, on ne contrôle le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par le pouvoir politique, ce qu'on appelle le contrôle constitutionnel, que depuis une loi, la Constitution de 1958 ne l'avait pas vraiment prévue, il a fallu attendre 1974 pour que le Conseil constitutionnel fasse un vrai contrôle de constitutionnalité des lois, et encore, ce n'est pas fini, pour qu'un justiciable puisse invoquer la violation de la Constitution, donc des droits de l'homme, eh bien, il faut attendre l'entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle votée en 2008. Donc ça a pris du temps. Et vous avez peut-être vu, comme beaucoup d'entre nous, qu'on est encore en train en France de discuter sur le statut d'indépendance ou pas des procureurs. La question de l'indépendance des procureurs n'est pas encore réglée. Alors en Chine, les choses se sont passées de façon différente. Il y avait une longue tradition de science du droit sous l'Empire, mais ça, je ne vais pas l'évoquer. Nous l'évoquons dans le travail avec Pierre-Étienne Ville, qui, lui, est un historien du droit chinois. Mais disons que pendant la période maoïste, le droit avait complètement disparu. Ce qui fait que le retour au droit, ben, il a seulement quelques décennies. En fait, il est engagé en 1978, à partir de 1978, ça fait donc une trentaine d'années, par Deng Xiaoping, qui lance le terme de l'égalité socialiste, la légalité socialiste. Et puis Jiang Zemin, en 1996, va parler de construire un état de droit socialiste, un principe qui va être inscrit dans la Constitution chinoise en 1999, qui est réaffirmé par le livre blanc sur la démocratie en 2005, et puis par un livre blanc sur l'état de droit en 2008. Donc il y a un processus qui est lent, qui est ambigu aussi, parce que si vous regardez le livre blanc sur la démocratie, vous voyez des choses un peu contradictoires. D'un côté, on affirme le gouvernement par la loi, on affirme la transparence des décisions de justice, et on affirme l'indépendance des professions judiciaires. Ce sont des points très importants. Mais d'un autre côté, on réaffirme que l'état de droit, c'est aussi le droit du peuple à rester maître du pays. Ce qui est une manière d'expliquer, de justifier l'omniprésence du Parti communiste chinois et du coup la confusion des pouvoirs. Alors, je dirais, pour essayer de classer un petit peu les idées, que le système juridique chinois actuel, en vigueur ici et maintenant, est encore loin des critères de l'état de droit, mais qu'il y a une sorte de dynamique de transformation qui est en cours. Et c'est ça qui me paraît extrêmement intéressant à observer. Il y a un mouvement, il y a une dynamique, à la fois une dynamique interne à travers cette idée de retour au droit depuis 1978, et puis une dynamique externe à travers l'internationalisation du droit, à travers l'intégration en droit chinois d'un certain nombre de textes internationaux. Ce qui pose la question de savoir s'il y a une synergie possible entre la dynamique interne et la dynamique externe. Alors c'est un petit peu ça que je vais essayer d'illustrer. La dynamique interne de retour au droit, je dirais, dans les résultats immédiats, elle reste ambiguë sur chacune des composantes de l'état de droit. En ce qui concerne les droits fondamentaux, ben, d'un côté, il y a des progrès. Par exemple, le code pénal de 1997 a supprimé le crime contre-révolutionnaire. On a limité la peine de mort pour les mineurs et les malades mentaux, à une époque où, je le rappelle quand même au passage, les États-Unis l'appliquaient encore, et aux mineurs et aux malades mentaux. Ça a été supprimé beaucoup plus récemment. On a inscrit le principe de la présomption d'innocence, tout ça dans la fin des années 90. Et puis en 2004, on a inscrit dans la Constitution à la fois la protection du droit de propriété privée et un principe général de protection des droits de l'homme, c'est-à-dire non seulement les mots ne sont plus tabous, mais ils sont dans la Constitution chinoise. Mais en même temps, je l'ai dit d'emblée, on continue à poursuivre certains avocats. La peine de mort, elle a été abolie pour les mineurs et les malades mentaux, mais la Chine reste quand même le pays qui détient les statistiques records quant à la peine de mort par rapport à la population. Et il y a une belle constitution, mais il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité. En ce qui concerne la loi, l'élaboration, les conditions d'élaboration ont progressé et la qualité de la loi s'est améliorée, mais l'essentiel du pouvoir législatif reste exercé par le Conseil des affaires d'État, c'est-à-dire en fait par l'exécutif, avec en plus, à l'échelon local, une très forte autonomie des autorités locales pour faire en fait des régulations qui souvent l'emportent sur la régulation nationale. Et puis, le point faible, mais ça je dirais que même dans l'histoire chinoise, ça a toujours été le point faible, c'est la garantie judiciaire. Alors, il y a eu un progrès dans la mesure où les professions judiciaires ont maintenant un statut. Et notamment, il y a un concours qui est commun aux professions, les avocats, les procureurs, les juges, qui a été créé. Mais les juges ne sont pas véritablement indépendants parce que leur carrière dépend du parti. Et ils ont du mal à être impartiaux parce qu'ils sont en position de faiblesse par rapport à l'administration, par rapport à la police et par rapport aux autorités locales. Il y a une sorte de protectionnisme local qui rend très difficile le travail du juge. Il y a quelques années, on a beaucoup parlé en Chine, c'était en 2003, de l'affaire de la juge Li Huijian, qui était juge dans une cour intermédiaire de Luoyang, qui a été suspendue parce qu'elle avait appliqué les principes de hiérarchie des normes en disant que la réglementation locale est contraire à la loi nationale, donc j'applique la loi nationale et pas la réglementation locale. Elle a été suspendue de ses fonctions pour avoir osé braver, en fait, les autorités locales. Mais en même temps, il y a eu autour de cette affaire tout un mouvement de protestation. Donc, cet exemple de l'affaire de la juge Li m'amène à dire que derrière une certaine déception devant les résultats immédiats du retour au droit, on entrevoit autre chose. On entrevoit ce que j'appellerais un effet de système à plus long terme. Le retour au droit, ça veut dire que progressivement, on a un phénomène d'autonomisation des institutions. Les juristes de certaines juridictions, comme la juge Li au niveau local, mais même les juristes de la Cour suprême, commencent à prendre une certaine conscience de leur rôle. Par exemple, la Cour suprême, en 2001, a prononcé une interprétation dans une affaire qui lui a donné l'occasion d'appliquer directement la Constitution à un conflit entre plusieurs personnes sur le droit à l'éducation. Ce qui était une première. Aucun juge avant la Cour suprême en 2001 n'avait osé invoquer directement la Constitution. Donc il y a une autonomisation des institutions. Il y a en même temps, c'est aussi l'idée d'un effet de système, une sorte de professionnalisation des juristes. Et les universitaires commencent à utiliser les instruments du droit dans des affaires où ils n'auraient pas eu l'idée de brandir la règle de droit quelques années avant. Alors il y a eu une affaire tragique en 2003, l'affaire Sun Zhegang. C'est un étudiant qui avait été arrêté par la police et qui est mort à la suite de tortures qu'il a subies au cours de sa rétention. Et tout un groupe de professeurs de droit a écrit à la commission permanente de l'Assemblée nationale populaire en disant « Nous avons maintenant une loi sur la législation qui nous donne un droit de proposition. Tout citoyen chinois a un droit de proposition. Eh bien, nous, professeurs de droit, à la suite de cette affaire, nous proposons quelque chose. Nous proposons de contester la constitutionnalité du texte qui avait permis l'arrestation de l'étudiant, d'un règlement du Conseil des affaires d'État. Nous contestons la constitutionnalité et nous demandons qu'il y ait une procédure de contrôle de constitutionnalité instaurée en Chine. » Alors évidemment, la réponse n'a pas été d'instaurer tout de suite une cour constitutionnelle, vous vous en doutez, mais le Conseil des affaires d'État s'est empressé d'abroger le texte pour essayer de calmer le jeu. Il y a quand même eu un débat dans les facultés, un débat sur Internet sur comment faire pour contrôler effectivement la constitutionnalité des lois et des règlements. C'est ce que j'appelle l'effet de professionnalisation. Et puis je dirais plus largement encore, il y a l'apparition peut-être dans la population chinoise, je parle sous le contrôle de Jean-Luc Domenac qui connaît mieux que moi la question, mais j'ai le sentiment qu'il y a l'apparition d'une sorte de conscience juridique qui se manifeste tantôt par l'exercice du droit de pétition, et ça c'est quelque chose qui a ses germes très anciens dans la Chine impériale, soit aussi par le recours aux tribunaux. On voit de plus en plus une volonté de passer par la loi, de contester certaines décisions. On utilise le droit de pétition ou on utilise le recours aux tribunaux, et ça c'était beaucoup moins développé avant ce retour au droit. Donc peut-être que cette dynamique interne, si on la prend non pas dans les effets immédiats, mais si on la prend dans une plus longue durée, peut provoquer cette montée progressive d'une conscience juridique dans la population chinoise. Mais ça, c'est la dynamique interne. Et ce qui est peut-être important aussi de prendre en compte, c'est la dynamique externe de l'internationalisation du droit. On pourrait dire que l'affaire avait mal commencé parce qu'au début du XXe siècle, ce sont les puissances occidentales qui ont imposé aux Chinois une sorte de transplantation. On a parlé d'occidentalisation des concepts occidentaux. C'est une internationalisation, mais elle est clairement hégémonique. Ce qui se développe aujourd'hui, c'est quelque chose de différent. La Chine n'est plus en position de semi-colonie, elle était à l'époque. C'est une puissance, c'est une grande puissance. Et ce qui se développe dans une perspective multilatérale avec l'idée de réciprocité. Simplement, ce qui est compliqué, c'est que l'internationalisation, elle se fait dans deux directions. Elle vient, si vous voulez, de deux facteurs. D'un côté, l'universalisme des droits de l'homme, et de l'autre, la globalisation économique. Or, la vitesse d'intégration se fait pas du tout la même, et pas du tout la même dans les deux domaines. Il y a une sorte de dissymétrie dans l'internationalisation du droit. Alors, du côté du droit international économique, c'est vrai que la Chine, qu'il s'agisse du droit des investissements ou du droit du commerce, intègre maintenant le droit international. Elle accepte l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends en matière d'investissement. Et pour le droit du commerce, elle a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce, ce qui veut dire qu'elle accepte un contrôle quasi-juridictionnel. Et il y a la première affaire qui a opposé sur plainte des États-Unis contre la Chine. Elle a accepté le contrôle de l'organe de règlement des différends. Elle a admis la sentence, mais elle a admis parce que la réciprocité est possible et qu'elle-même peut être déposée des plaintes contre les États-Unis ou d'autres États pour violation du droit de l'Organisation du commerce. En revanche, pour ce qui concerne les droits de l'homme, alors la situation est plus... L'évolution, disons, est plus lente. Je rappelle quand même au passage, mais c'était avant l'arrivée de Mao au pouvoir, que la Chine avait participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans notre livre avec Pierre-Étienne Ville, nous avons reconstitué le rôle du délégué chinois à l'époque qui a joué un rôle actif dans l'élaboration de la déclaration. Et on a retrouvé des documents de cette époque qui sont très intéressants parce que l'Association des juristes chinois avait, dans les années 47-48, non seulement soutenu le projet de déclaration universelle, mais proposait de créer une Cour mondiale des droits de l'homme. Proposition très avant-gardiste, puisque cette Cour n'existe pas encore. Alors, cela dit, depuis 1949, la question des droits de l'homme, c'est devenu question souveraineté nationale et politique intérieure. Néanmoins, la Chine a commencé à ratifier des textes. Elle a ratifié la Convention contre la torture en 1988, et surtout, elle a signé les deux grands pactes des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels et sur les droits civils et politiques à la fin des années 90. Et enfin, elle a ratifié en 2001 le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Ce qui veut dire qu'il y a maintenant un droit de regard du comité de ce pacte sur les pratiques chinoises. Il y a un rapport de 2005, par exemple, qui critique les procédures en matière d'expropriation et qui, à travers les affaires d'expropriation, constate que la liberté d'expression n'est pas suffisamment protégée, que le droit de la population à être informée des nouveaux règlements d'urbanisme n'est pas respecté, etc. Donc, au fond, le droit international, on a l'impression qu'il y a une certaine complémentarité qui se met en place entre le droit international économique et celui des droits de l'homme. Au fond, je dirais, en matière de droits de l'homme, le droit international joue un rôle de révélateur. Ça fait un peu vaciller le vieux postulat que les droits de l'homme, c'est uniquement de la politique intérieure. Non, puisque maintenant, il y a un droit de regard de ce comité de l'ONU, également un droit de regard du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, il y a une sorte d'effet de révélation. Et puis, si on prend le droit économique, le droit de l'organisation du commerce, là, il y a plus que de la révélation. Le droit international est un indicateur, il indique les réformes à faire. Alors, vous allez dire, oui, mais c'est le droit du commerce, donc ce sont uniquement des réformes en matière économique et financière. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que le protocole d'accès de la Chine à l'OMC et les premiers rapports faits par le secrétaire général en 2006 et en 2008 vont au-delà du droit purement économique. On impose la transparence des textes, on impose un contrôle effectif des sanctions administratives, ce qui touche à la question de l'indépendance des juges et des moyens donnés aux juges pour faire exécuter les peines. Donc, il y a en réalité un effet indicateur qui concerne toute la construction d'un état de droit. Il y a donc une dissymétrie au départ, mais en réalité, à l'arrivée, une complémentarité possible entre le droit international économique et le droit international des droits de l'homme, une complémentarité aussi entre ce qui se met en place au niveau international, par exemple la protection des investisseurs étrangers, et ce qui se met en place au niveau national, parce que la population, eh bien, elle utilise la revendication égalitaire en disant dans la Constitution chinoise, il y a un principe d'égalité. Donc, ces garanties que vous donnez aux investisseurs étrangers, il faut les donner aussi à la population chinoise. Et du coup, l'argument permet d'intervenir, de contester certaines affaires d'expropriation. Donc, il y a une complémentarité assez complexe entre les secteurs, secteur économique, secteur droit de l'homme, mais aussi entre les niveaux, niveau national, niveau international. Ce qui fait que, comme conclusion provisoire à ce propos, je dirais, j'ai envie de reprendre la réponse que nous a fait un de mes collègues chinois, Lu Jianping, quand on lui demandait ce que les dirigeants chinois pensaient de la mondialisation. Alors, il nous a dit, ben, il y a trois mondialisations. Alors, la mondialisation économique, ils sont pour. La mondialisation politique, ils sont contre. Et quid de la mondialisation juridique? Et là, il nous dit, ils hésitent. Ils hésitent pourquoi? Parce que la mondialisation juridique, elle est inévitable à partir du moment où on accepte la mondialisation économique. Et elle est partiellement souhaitée. Mais en même temps, ils hésitent parce qu'ils ont conscience de ces effets par ricochet, de ces interactions, et qu'ils ont peur que cette mondialisation juridique ne se cantonne pas à l'économie et leur échappe. Et je dirais ça, c'est l'effet positif du droit. C'est ça le rôle positif du droit. C'est qu'il met en place des dynamiques qui échappent en partie aux responsables politiques. Alors, finalement, le rôle du droit par ces dynamiques, il peut être un rôle très positif. En même temps, c'est vrai que ces dynamiques sont interactives, évolutives, donc sont extrêmement complexes, ce qui fait que la vitesse de transformation du système juridique chinois, je dirais qu'elle est totalement imprévisible, en raison de cette complexité même. Donc voilà quelques remarques.
Merci de ce propos liminaire et très éclairant. Alain, tu as la parole, j'espère que tu montreras autant de discipline.
Oui, je suis très discipliné, tu sais bien. Il faut dire que répondre à la question qui a été posée au départ en 20 minutes, ce n'est évidemment pas possible. Je vais donc donner quelques pistes, comme d'ailleurs c'est la seule chose qu'on peut faire. La première piste qui me paraît importante, la première question, est-ce qu'on peut dire que la tradition chinoise est telle que la tradition chinoise s'oppose à toute démocratie. Disons l'idée, la vision culturaliste d'une Chine qui est obligatoirement autoritaire, gérée de façon autoritaire, que l'autoritarisme est, disons, une fatalité chinoise. Et il y a eu là-dessus toute une littérature, dont certains ouvrages très célèbres.
Certes.
Perfide, par exemple, c'est ce qu'il y a derrière. Hein, l'idée que les Chinois, c'est vraiment autre chose, ils peuvent accepter des choses inacceptables, ils sont voués à l'autoritarisme. Bon, ça s'inscrit aussi dans la logique d'une certaine vision, c'est un peu différent, un peu schématisé par, mettons, Francis Fukuyama sur la mort de l'histoire, puisque l'histoire doit aboutir inévitablement à un modèle du type américain, démocratique à l'américaine. Bon, ben, tout est réglé, quoi, pratiquement. La Chine est un pays qui restera toujours sous l'autoritarisme. Il n'y a pas à aller beaucoup plus loin. Alors ça, je vais très vite là-dessus. C'est inacceptable. Je dis très franchement, et j'essaie d'être schématique pour pouvoir susciter éventuellement le débat et la polémique. Je dis, c'est inacceptable. Je pense qu'il y a effectivement, dans la tradition chinoise, des éléments qui favorisent une vision autoritaire, etc., etc. Mais il y a aussi des éléments inverses. Et on peut revoir le confucianisme, je pense aux travaux d'An Cheng, par exemple, et trouver dans le confucianisme des éléments d'une certaine démocratie. Plutôt d'ailleurs chez Mencius, à la limite, qui envisageait quelqu'un qu'on dit qui est à la base de l'autoritarisme, qui envisage le tyrannicide et qui estime que le tyrannicide, c'est légitime quand le pouvoir est tout à fait injuste. C'est quand même une vision qu'on peut difficilement considérer comme conservatrice. Il y a une belle phrase, d'ailleurs, de Mencius, qui est remarquable. « L'empire est le bien commun de tous. Hein » Tianxia Weigong. « C'est le peuple qui a le plus de valeur. » Je dis bien « c'est le peuple qui a plus de valeur. » Viennent ensuite les hôtels des dieux du sol, le prince et ce qu'il y a de moins important. Donc, on peut trouver dans la tradition chinoise l'inverse de l'affirmation initiale. Je ne développe pas là-dessus. Mais il y a eu là-dessus d'ailleurs des choses intéressantes. C'est notamment dans les années 58, un certain nombre de penseurs chinois néo-confucéens, dont Carson Chang est le plus connu, qui ont publié dans la Tribune démocratique de Hong Kong toute une réévaluation de la culture chinoise traditionnelle, précisant que c'était la base possible d'un nouvel humanisme. Ça a été repris par des gens très connus, Du Weiming, etc. Je vais vite. Alors, certes, cette vision qui réévalue la tradition chinoise et qui y voit des possibilités d'évolution vers plus de liberté, etc., et un certain humanisme, est peu égalitaire. Et c'est une vision d'une évolution vers une autre société qui est, quelque part, qui accepte assez bien la tutelle sur la population, le rôle dirigeant des sages. C'est donc assez complexe. Ça pousse vers une vision assez élitiste de la société, un rôle important de l'éducation, mais de l'éducation des élites. C'est évidemment un bémol important. Mais on ne peut pas dire qu'il y a obstacle à une vision de la Chine vers une société plus démocratique. Il y a simplement un certain poids. Ben, écoutez, il y a une phrase très belle de Confucius, autant la Confucius. « La puissance morale de l'homme de bien est comme le vent. Sous elle, le peuple plie et se couche. » Deux interprétations. Vous retenez uniquement que le peuple se couche sous le vent, vision autoritaire, et vous voyez que c'est au contraire la puissance morale de l'homme de bien qui est promu, c'est un peu différent. Donc, je propose que, au moins, on nuance cette fatalité, qu'on n'accepte pas comme une fatalité. La Chine peut évoluer vers la démocratie. D'ailleurs, il y a un élément, c'est Taïwan. Société chinoise marquée par le confucianisme, et Taïwan évolue vers une démocratie avec des difficultés, des problèmes, mais qui n'en a pas. Il faudrait quand même pas il faudrait revenir sur certaines limites de notre propre conception de la démocratie dans son existence. Et Taïwan a connu une évolution du parti unique à la chinoise, du même modèle léniniste d'ailleurs, avec le Dango, le parti État. Bon, d'accord. Il en est sorti le parti des 100 partis, le Danghui, lequel s'est affirmé maintenant dans le DPL, le Parti démocratique populaire, et il y a eu alternance au pouvoir à Taïwan, avec d'ailleurs le Kuomintang perdant le pouvoir et la récupérant par des élections. Taïwan a beaucoup de spécificités, on peut y revenir, mais ça confirme en tout cas qu'il n'y a pas une fatalité que la Chine soit soumise à un régime autoritaire. Point. Première affirmation. Deuxième affirmation. Il y a dans la société chinoise des germes de ce qu'on peut appeler une évolution démocratique. Des germes. Est-ce que ces germes peuvent se développer ? Est-ce qu'ils sont condamnés à rapidement être gelés par les premiers coups de vent, les premiers coups de froid ? Je pense quand même qu'il est important de... Et ça, c'est un peu ce qu'a dit l'intervenante précédente. Il faut voir ce qui est en train de changer, sans forcément le juger de façon définitive. C'est fragile, mais il faut l'analyser. Alors, les éléments, pour moi, d'analyse très rapide, il y a les élections villageoises. Les élections villageoises, c'est quand même un phénomène assez important. Ça s'est développé de façon considérable. Et dans les villages, au niveau de base, dans les villages, c'est-à-dire dans quelque chose comme 900 000 villages, c'est pas mal, il y a des élections où il y a pluralité de candidatures, où il y a une certaine campagne électorale, et où il y a une certaine liberté de choix. Et en plus, c'est populaire, ça marche. Ça a commencé en 87, il y a eu des hauts et des bas. On peut discuter, il y a eu beaucoup d'articles contradictoires là-dessus, mais on peut estimer que dans le tiers des cas, à peu près, les gens, les paysans ont donné leur opinion. Et c'est passé maintenant au niveau du canton, un niveau déjà un peu supérieur. Le canton, en Chine, des cantons, il doit y en avoir 80 000 à peu près, je ne sais pas, j'ai chiffre quelque part. Moins que ça, 45 000. Donc 20 000 habitants dans un canton, 10-20 villages. C'est quand même intéressant. Alors effectivement, c'est à nuancer. Ces élections sont assez contrôlées. Ça a été étudié dans une ville qui s'appelle dans un canton qui s'appelle Bouyun de façon très détaillée. Il y a effectivement un comité formé de cadres de l'arrondissement qui étudie les candidatures et qui en sélectionne. Donc là, il y a une limitation réelle, mais dans certains cas, des candidats extérieurs ont quand même été élus et acceptés. Ça demeure un objet de controverse, c'est très complexe. Et d'autre part, on peut aussi bien considérer que, comme dans 50% des cas, c'est le candidat du parti qui a été élu, ça confirme que le parti est accepté par les paysans. Et comme dans 50% des cas, c'est précisément pas le candidat du parti qui a été élu, ça confirme l'existence d'une opposition. Donc on peut rester sur un débat important. Mais il est réel qu'il y a en Chine un lieu où il y a un débat, et un débat assez démocratique, dont le bilan n'est pas toujours merveilleux. Il est arrivé assez souvent que des maires, puis on peut parler de maires, là, élus dans ces conditions qui nous paraissent tout à fait acceptables, aient été manipulés par des investisseurs plus ou moins scrupuleux et étaient à l'avant-garde de spéculations très, très préjudiciables aux paysans. C'est donc pas... la démocratie n'est pas toujours quelque chose de parfait ni de fonctionnant dans l'intérêt des gens. Mais c'est un point important.
Tu me permets une parenthèse. Un collègue chinois m'a dit que sur les 50% de candidats rentrés contre le parti, qui ont gagné contre le parti, 50% demandaient à rentrer au parti.
Exact.
C'est-à-dire que ça se concluait par une purge à l'intérieur du parti.
Exact.
Ce qui est également assez intéressant.
Et pour compléter, ça oblige maintenant le parti à faire attention pour présenter des candidats qui sont éligibles.
Voilà.
Donc il est obligé de prendre en compte l'opinion des gens. C'est sans doute un bouleversement. Alors est-ce que c'est un bouleversement copernicien ? Ça, c'est autre chose. Autre élément intéressant, Internet. C'est plus ambigu. Mais enfin, il se trouve que Internet joue un rôle important en Chine. Il y a eu des campagnes menées par Internet. Les problèmes qu'évoquait Delbas Marty tout à l'heure, ce problème du jeune étudiant Mingong qui a été roué de coups par la police, c'est apparu par Internet. C'est une campagne sur de blogs. Il y a en Chine 52 millions de blogs. C'est pas mal quand même, c'est le dernier chiffre connu. Il y a eu des scandales qui ont été dénoncés par des blogs. Par exemple, le scandale des esclaves dans les bricateries du Shanxi, c'est une campagne sur le blog. Il y en a constamment. Et il y a effectivement là-dedans, c'est le rôle des fameux, on a évoqué cela, les avocats aux pieds nus, etc., etc. Je vais très vite. Certes, c'est terriblement contrôlé. Certes, on condamne à 4 ans de prison, par exemple, un de ces blogueurs, pour des raisons tout à fait arbitraires. Certes, le pouvoir s'est admirablement utilisé ce nouveau moyen en le manipulant. en apprenant ainsi ce qui se passe pour intervenir. N'empêche qu'il le prend en compte. Et le gouvernement chinois connaît très bien, du coup, ce qui se passe dans le pays. Il n'est pas autiste, ce qui est très différent de ce qui se passait du temps de Mao. Et de ce point de vue-là, je pense que malgré les limites qu'on peut faire au développement d'Internet en Chine et de son rôle démocratique vers la démocratisation, avec tous les ratages que j'ai évoqués, cette espèce de, comment je dirais, de journalisme citoyen, on n'a pas le journalisme citoyen, est en train de jouer un rôle, et c'est un élément à prendre en compte. C'est apparu avec la charte 08, par référence, bien sûr, à ce qu'a fait la charte 77 des dissidents tchèques, Vavec. Et cette charte 08 a été lancée par 6600 par 303 personnalités. Elle a recueilli pas mal d'échos. Alors, effectivement, le premier instigateur, Liu Xiaobo, a été arrêté. Il est incontestable que de signer ce texte entraîne de prendre des risques. Le texte peut discuter, est discutable d'ailleurs. Il présente une vision d'une Chine fédérale. Il a une certaine idéalisation de la société libérale capitaliste. Il y a des naïvetés dans le texte, hein, me semble-t-il, en tout cas à mon avis. N'empêche qu'il existe. Il témoigne de quelque chose qui est en train de changer en Chine, qui est quand même relativement important. Et de même, quand on regarde, troisième point, le traitement des crises par les autorités chinoises témoigne d'une évolution. Encore une fois, avec d'énormes limites. Je pense par exemple au tremblement de terre de Sichuan. Dans un premier temps, les autorités ont laissé faire, ont laissé développer toute une série de blogs, etc., d'informations, dénonçant notamment les malfaçons dans les écoles qui sont écroulées et qui ont fait qu'il y a eu 5 à 6 000 au moins élèves qui ont été écrasés sur leur école, ce qui est un véritable scandale. Il y a eu donc, au départ, ça a été lancé. Puis, on a voulu freiner. Maintenant, on est une situation bizarre où on a établi la liste des enfants qui ont été tués, tout en donnant pas leur nom, tout en limitant, si possible, et par ailleurs, en essayant d'intervenir pour aider la population, dédommager, etc., etc. Il s'est créé une espèce de dialogue contraint, complexe, plein de coups de frein. N'empêche qu'il se passe quelque chose. Et ce n'est plus la Chine autoritaire du passé qui ignorait tout cela. Je pourrais développer là-dessus. Je pourrais même ajouter que la façon dont la Chine réagit à la crise qui la frappe, avec 10 à 20 millions de migrants qui sont dans situation dangereuse, qui risquent de perdre leur emploi, n'est pas sans intérêt, puisqu'il semble qu'il y ait des effets positifs. On va en discuter, mais il semblerait quand même que la tendance à développer le marché intérieur chinois, notamment à l'Ouest, encore insuffisante, permet d'amortir un peu les effets désastreux de l'effondrement des exportations sur lequel repose le modèle économique chinois. Il y a une espèce de lente évolution. Est-ce qu'elle se fera suffisamment vite ? Je n'en sais rien. Mais il y a là encore eu une prise en compte d'une certaine demande, une certaine réactivité des autorités qui n'est pas sans intérêt. Sans doute aussi, faudrait-il faire référence, mais ça serait alors renvoyé à la sociologie et ça serait un peu trop long, au développement de couches nouvelles dans la population chinoise. La Chine est bouleversée. Il y a l'évolution d'une couche moyenne. Alors, la couche moyenne, c'est quelque chose qui est autant idéologique que réel. Les gens se définissent comme faisant partie des classes moyennes, même quand, par leurs revenus et leur genre de vie, chez nous, ils sont encore très loin de ce qu'on appelle des classes moyennes. Les classes moyennes chinoises sont loin d'être ce qu'on a, avec tout ce qu'on met derrière ce terme chez nous. N'empêche que le simple fait que les gens se considèrent comme faisant partie d'une classe moyenne est déjà significatif. Et par ailleurs, il y a une réalité de plusieurs, disons, en gros, on peut discuter entre 50 millions et 200 millions de Chinois, ce n'est pas négligeable, qui sont sortis de la misère extrême, qui commencent à avoir des biens, qui commencent à être des consommateurs véritables, qui, du même coup, ont des exigences. Et ces exigences correspondent assez bien à ces possibilités d'ouverture politique qui sont en train de se manifester. Ces gens-là se défendent quand on veut les exproprier. Ils font appel à des avocats, ils font appel à la presse, ils se battent. On a eu des choses étonnantes. On a quand même eu des paysans qui ont quand même réussi l'exploit de prendre sur des photos sur leur portable de brutalité policière qui ont été rediffusées par Internet, qui sont arrivées sur le New York Times et qui ont fait que le commissaire de police brutal a eu quelques ennuis. Bon, c'est nouveau, ça ne va pas très loin, je suis bien d'accord, et c'est fragile. Mais pour moi, c'est aussi précieux et c'est à, disons, c'est à souligner, à analyser, à décortiquer. Je parle des dernières grèves en Chine. Il y a une importante grève des taxis à Chongqing. Considérable. Je sais plus comment, les chiffres sont 20 000, je crois. Elle commençait à se développer ailleurs en Chine. Ça s'est terminé par des négociations des délégués des grévistes et les autorités, pas le syndicat officiel qui a été oublié. Et les délégués des grévistes ont discuté et ont gagné. Du coup, les gens de Shanghai, les chauffeurs de taxi de Shanghai ont demandé les mêmes choses et les ont obtenues. Et les délégués en question continuent à être maintenant des sortes de représentants d'une sorte de syndicat non reconnu, mais qui est là et dont l'autorité, manifestement, n'a pas été écartée. Alors certes, très souvent, quand il y a des grèves en Chine, et Dieu sait qu'il y en a, les ouvriers choisissent des délégués, et ces délégués qui mènent une grève souvent victorieuse, après on leur demande d'adhérer au syndicat officiel, à qui cela redonne une certaine autorité, et en même temps ça les muselle, puisque le syndicat officiel reconnaît le rôle dirigeant du parti et se considère comme un pont entre le parti et les masses. Mais et s'ils refusent, ils risquent fort de connaître la prison ou des persécutions multiples. Ceci étant, il s'est passé des choses, ça avait été analysé déjà pour les longues grèves de Liao Wang, par Roca, qui a fait de très belles analyses, très détaillées sur ces grèves à répétition, qui ont vu quand même s'affirmer un rôle des ouvriers dans les négociations. Il y a donc une espèce de démocratie sociale qui, par petits coups, s'impose, recule, avance, est contestée, mais qui témoigne d'une évolution réelle. Alors, ceci m'amène à une sorte de conclusion. J'obéis. Hein. Je saute tous mes dossiers qui m'auraient amené trop loin. Mais j'arrive à une conclusion qui est un peu provocatrice, je le fais volontiers. Il me semble, effectivement, on peut dire qu'en Chine, on est dans une transition vers une démocratie limitée. Je dirais bien une démocratie élitiste, un autoritarisme éclairé. C'est des mots, c'est des oxymores. Hein. On est dans des contradictions. Mais j'ai même trouvé un article où il y a un terme qui m'a... j'ai trouvé dans un article en allemand, qui s'appelle Schubert, l'expression « vers un léninisme consultatif ». Ah ! Je vous le sors, hein, je vous le sors. Je suis plus que réservé sur le concept. Mais c'est plus qu'un oxymore, c'est carrément une contradiction. Mais ce qui est réel, c'est que, un, on ne peut pas admettre comme inévitable le modèle de démocratie que l'on considère comme le nôtre, comme universel et à imiter obligatoirement, d'autant plus qu'il y a fort à dire. Deux, dans la société chinoise, il y a une évolution vers une société où le parti unique tolère la formation d'une société civile qui s'organise et qui peut parler. Est-ce que ça ouvre des perspectives un peu du genre qu'a connu Taïwan de quelque chose hors du parti organisé et vivant? Ça ne semble pas à l'ordre du jour pour le moment, je le dis très franchement. Est-ce que ce parti unique peut longtemps coexister avec ce bourgeonnement démocratique fragile? Est-ce que c'est simplement une sorte d'échafaudage qui permet de construire autre chose et qui s'effacera à un moment, et comment s'effacera-t-il? Je n'en sais rien, mais je suis sensible à cette évolution et c'est en tout cas ma conclusion.
Eh bien, je te remercie
de cet exposé
impeccable. Il va me permettre, j'espère que tu en seras d'accord, de m'attribuer 5 minutes.
Ah oui.
Ensuite, de vous donner 5 minutes à chacun d'entre vous pour réagir. Je crois que Mme Delmas-Farty voudrait dire 2-3 mots sur ton propos, et je te connais, tu trouveras moyen de dire 2-3 mots sur ces 2-3 mots. Ensuite, nous aurons 25 minutes pour donner la parole, disons, à la salle. Alors, pour ce qui me concerne, 2 propos de méthode. Dans l'atelier sur l'Afrique, Jean-Pierre Dozon, qui se cache dans la pénombre, a dit quelque chose comme ça, qui est sorti comme ça du cœur. Il a dit, vous savez, les Africains sont comme nous. Et ça a choqué beaucoup, et à mon avis, c'était profondément juste. On exagère très souvent la particularité, absolument, la spécificité. Ce sont des restes de culturalisme. Chez nous, ils sont noirs, donc ils ne sont pas démocrates, ou ils ne sont pas pareils, etc., etc. Mais moi, j'ai tendance à penser que dans le cas où les Chinois n'étaient pas comme nous, en tout cas, ils tendent à le devenir de plus en plus. Il y a une banalité du cas chinois, c'est un propos d'un grand sinologue que nous apprécions l'un et l'autre, Lucien Bianco, banalité qui est de plus en plus forte depuis que la Chine a été basculée dans la modernité par les navires occidentaux dans les guerres de l'opium. Et c'est ce qui fait les difficultés qu'on a avec les thèses de François Julien, il faut bien le dire. Hein. Voilà. Et plus l'histoire travaille en Extrême-Orient et en particulier en Chine, et plus je crois que l'histoire chinoise, pour le cas où elle n'aurait jamais été loin de la nôtre, cette histoire a tendance, disons, à retrouver des chemins assez balisés. Le deuxième point de méthode, c'est que je crois qu'il faut arriver à penser quelque chose qui est une transition, mais ne pas le penser de façon transitologique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que s'est développé depuis 1989 une sorte de transitologie à partir du cas est-européen. Les mêmes spécialistes qui ignoraient la faiblesse profonde des communismes est-européens se sont mis tout d'un coup à interpréter tous les pays du tiers-monde d'une façon transitologique, comme s'ils devaient évoluer inéluctablement vers la démocratie. Et c'est là que je me sépare de ton optimisme historique, qui est une des caractéristiques intellectuelles, que d'ailleurs je respecte et apprécie. Je crois que la Chine est en transition, je crois que la démocratisation, je crois que la mutation du droit joue un rôle fort dans cette transition, mais je ne crois pas du tout certain que cette transition aboutisse à une hypothèse, en tout cas rapidement, à une hypothèse démocratique, mais je crois que des hypothèses de type autoritaire et pas très différentes de l'hypothèse russe, je crois que Pékin a toujours été moins loin qu'on ne l'a dit de Moscou, y compris sous Mao Tse-tung, parce qu'après tout, l'économie chinoise, Daniel Cohen qui est là doit le savoir, elle a été vraiment l'industrie, c'est la grosse industrie à la soviétique pendant très très longtemps. Le privilège à la grosse industrie lourde n'a jamais été aboli. Dans les faits, on discutait, on parlait des campagnes, etc., etc. Dans les faits, le cœur du système soviétique est resté très très longtemps, jusqu'à la fin des années 80. Et je vois à cela, il me reste 2 minutes, regarde comme je suis remarquable, et je vois à cela 2 causes supplémentaires. Un, l'ambivalence des effets de l'ouverture, parce qu'avec l'ouverture, la Chine nous connaît mieux, et pour ceux qui ont tout pour nous aimer, que tout prédispose à nous aimer, ils nous aiment plus, mais il y en a beaucoup qui connaissent nos défauts, et il faut entendre parler les Chinois sur les incidents des banlieues, et entendre aussi leurs conclusions sur le système démocratique, et sur ce qu'ils savent de la crise, par ailleurs, évidente, du modèle démocratique, pour ne pas se raconter d'histoire sur le triomphe inéluctable d'une démocratie léniniste ou pas léniniste. Alors, deuxièmement, je pense que là, il ne faut pas non plus prendre les dirigeants chinois pour des imbéciles. Alors, je ne crois pas que ce soit ton cas non plus. Je crois que c'est probablement dans l'histoire communiste les dirigeants les plus intelligents, pour le meilleur et pour le pire, qui aient jamais dirigé un pays communiste. Les plus intelligents pour le meilleur, parce que je crois qu'ils ont compris comment on développe une économie moderne, et c'est pour ça qu'ils vont faire des politiques sociales, le premier régime communiste faisant des politiques sociales, mais pas par sympathie pour les masses, c'est pour faire un marché de consommation. Mais deuxièmement, je crois qu'il y a eu des capacités extraordinaires de manipulation que le régime met en œuvre, manipulation des opinions par 2 méthodes. Premièrement, l'Internet, et deuxièmement, un ensemble, disons, de containments, comme ça, de pression, disons, qui commence à l'école et qui se termine dans les administrations, qui font qu'il se crée une sorte de majorité d'opinion, enfin, que le régime cherche à créer, il parvient souvent à créer une forme de majorité d'opinion, à la fois dirigée et relativement spontanée, dont la colonne vertébrale est un nationalisme qu'il faut bien dire assez écœurant pour un démocrate normal. Ce pays-là vit un nationalisme, je suis au regret de le dire devant, je crois qu'il y a quelques étudiants chinois dans la salle, franchement je suis tout à fait désolé de voir ce vieux pays raisonné, raisonnable, basculer, Ça nous est arrivé dans le temps, hein, nous aussi en
oh,
France.
Oui.
Hein, oui. Bon, donc il ne faut pas non plus faire les malins. En tout cas, ce que je veux conclure, c'est que si l'histoire travaille, je dirais qu'il n'est pas certain que... Enfin, le pire est exclu, je crois, on ne reviendra pas au totalitarisme maoïste, mais il n'est pas certain que le meilleur soit disponible avant assez longtemps. Voilà. Madame Delmas-Marty, vous vouliez parler de... Tu as vu 5 minutes, hein ?
Ah oui,
voilà.
Ça va.
Madame Delmas-Marty, vous vouliez dire un mot sur le propos d'Alain ?
Oui, d'abord pour dire que j'étais d'accord avec sa remarque que le modèle occidental n'est pas un modèle universel. Et j'ajouterais simplement que c'est un modèle en crise.
Oui.
Et notamment depuis, on peut dater, il y a une bifurcation quand même forte avec les attentats du 11 septembre 2001 en ce qui concerne l'application, y compris des droits de l'homme, des droits fondamentaux. Donc, on n'a pas un modèle universel et ni même universalisable. Mais on a des critères de la démocratie, des critères d'état de droit, ce qui n'est pas la même chose qu'un modèle. Et donc là, je vous rejoins. Et je vous rejoins aussi quand vous dites que la Chine n'est pas vouée à l'autoritarisme par son histoire. Je me souviens, quand nous avions travaillé avec Pierre-Étienne Ville sur cet ouvrage, il avait recensé les bourgeons de démocratie en disant c'est d'une part le censorat, c'est-à-dire la pratique sous la dynastie Ming, ce qui est déjà ancien, de droits de remontrance vis-à-vis de l'empereur et de droits de contrôle sur les fonctionnaires publics. Il avait même employé l'expression d'un contrôle de constitutionnalité à l'époque Ming. Alors, sans aller aussi loin, mais c'était un peu provocateur, est-ce que vous pensez, vous aussi, que cette vieille pratique du censorat pourrait être réactualisée ? Elle l'avait été une première fois, si je ne me trompe, à l'époque de Sun Yat-sen, quand il avait proposé une théorie des 5 pouvoirs, c'est-à-dire les 3 pouvoirs occidentaux, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et 2 pouvoirs recherchés dans la tradition chinoise, le censorat, c'est-à-dire un pouvoir de contrôle au-dessus de la loi, et puis le pouvoir des examens, ce qui n'est pas neutre non plus, puisque ça garantit en quelque sorte l'impartialité des hauts fonctionnaires, leur indépendance. Alors ça, c'est sur le premier bourgeon de démocratie. L'autre bourgeon sur lequel aussi je voudrais avoir votre sentiment sur la situation actuelle, il citait le droit de pétition, en disant que ce droit de pétition, c'était l'ébauche d'une participation du citoyen aux affaires publiques. Alors, dans toutes ces négociations qui ont lieu à l'heure actuelle, au fond, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que la population renoue avec ce droit de pétition, sachant que l'autorité judiciaire a peu de moyens de faire exécuter ses décisions? On se dirige plutôt dans le sens d'un droit de pétition. Est-ce que ça renoue, là aussi, avec l'histoire ?
Alors, oui, 5 minutes, hein, toujours.
Non, t'as pas 5 minutes complètement.
Une minute, alors. Bon. On a parlé de Sun Yat-sen, ça tombe très bien. Je rappelle un élément qui est une partie de réponse. Sun Yat-sen estimait qu'il y avait 3 types de citoyens. Il y avait ceux qui savent avant les autres. Hein. Xianzhe, donc les chefs, hein, lui. Il y avait ceux qui savent après. Huzhe, ça, c'est les militants. Et après, il y a ceux qui ne savent pas, c'est la masse des gens. Donc, ils pensaient qu'il fallait exercer la tutelle du parti sur les masses pour leur permettre de sortir du boujeu au roujeu, hein, d'acquérir. Donc, c'est la vision de la tutelle, etc. Il y a une tradition. On ne peut pas dire que Sun Yat-sen n'ait pas été un démocrate, malgré des particularités, hein, diverses. Pour les Chinois, en tout cas, il est considéré comme un démocrate, comme un père de la démocratie. Et vous voyez... pour les pétitions, il y a un exemple important, c'est la préparation de la révolution de 1911. Il y a eu 2 vagues de grandes pétitions entre 1909 et 1910 qui ont été lancées par les nouvelles assemblées de notables qui avaient été mises en place et qui, semble-t-il, ont recueilli jusqu'à 40 millions, je crois, de signataires. C'était pas si mal que ça. Ceci dit, c'était des gens qui se plaçaient derrière les notables pour demander de donner plus de pouvoir aux assemblées de notables. Hein, et la constitution qui a été mise en place est une constitution censitaire. Un des problèmes qui apparaît dans cette tradition, c'est quand même une tradition élitiste. C'est les premières listes électorales qu'on a mises en place. Il fallait posséder des biens et il fallait avoir des diplômes. Hein, c'est qu'en Chine qu'on a pensé au diplôme à ajouter. Ça faisait que 1 à 2 % des gens masculins, on ne parle pas des femmes.
Pas égalitaire du tout.
C'est pas du tout égalitaire. Et là, quand vous discutez avec les Chinois, la notion d'égalité demeure un objet de discussion. Ceux qui revendiquent l'égalité, c'est le courant motiste. C'est un courant un peu hétérodoxe qui existe. Mmh. Les taoïstes aussi. Mais dans la tradition culturelle, politique chinoise, c'est une vraie question.
Bien. On va ouvrir un petit peu la discussion. Je ne sais pas s'il y a un micro quelque part. Voilà, voilà, si vous voulez. Alors, je crois qu'il y a ici deux personnes. Philippe Richer.
Mon Dieu.
Là, juste là.
Vous avez vu aussi au dernier rang, il y a quelqu'un.
Ah oui.
Ma question est brève. Quelles sont la place, le rôle de la politique de retour à Confucius dans cette transition démocratique?
La politique
le retour à Confucius dans la transition démocratique. Monsieur, attends.
Pardon.
On va prendre deux. Tu vas répondre.
Non, mais je ne réponds pas.
Oui, je voulais juste faire un petit commentaire avant de poser deux questions. Dans d'autres débats ici, finalement, à chaque fois qu'on pose la question de l'avenir de la démocratie à l'extérieur des pays occidentaux, se pose toujours un même problème, c'est-à-dire celui de l'universalité de la démocratie ou pas, et la question de la vision culturaliste des sociétés extérieures. Je crois qu'il y a un malentendu par rapport à cette affaire. Ce qui manque, je ne pense pas qu'on ait, on ait le tort d'avoir une vision culturaliste de la Chine. Ce qui manque, c'est le regard sociologique sur ce que c'est que la démocratie, sur ce que sont nos sociétés. C'est-à-dire que les valeurs démocratiques, les valeurs individuelles, la liberté et l'égalité ont une genèse historique et sociologique. C'est ce regard-là qu'il faut avoir sur nous pour comprendre que la vision culturaliste de la Chine ou d'autres pays qu'on a pu évoquer dans les débats hier n'est pas nécessairement mauvaise. Et culturalisme ne veut pas dire qu'on est enfermé nécessairement dans ce monde-là, qu'il n'y a pas d'évolution possible, de rupture possible. Bon, je ne veux pas un débat extrêmement compliqué, mais je pense que si on écarte d'emblée l'idée qu'une approche culturaliste, comme il a été dit ici, moi je préfère dire sociologique de la Chine, on ne comprend pas alors pourquoi il y a l'émergence. Bon, maintenant je voudrais poser deux questions, justement sur les causes de cette émergence. Est-ce qu'elle ne tient pas justement au fait qu'à partir d'un certain moment, il y a des interactions fortes et régulières avec les pays occidentaux? Ça, c'est la première chose. Et en ce qui concerne l'autoritarisme dont on a parlé, et qui a été bien pire que l'autoritarisme il y a quelques décennies, est-ce qu'il n'y a pas aussi une racine proprement occidentale à cet autoritarisme, c'est-à-dire celle qui vient du maoïsme, et qui vient donc de quelque chose de typiquement occidental, et qui est la partie beaucoup plus que tyrannique encore, qui est celle du totalitarisme?
Voilà. Bon, une dernière question en bas, ensuite je passerai aux questions en haut, je sais qu'il y en a. Hein. Philippe Frémaux.
Oui, moi, j'ai trois petites questions pour mieux comprendre. La première chose, c'est qu'hier, on nous a expliqué que la démocratie était née largement avec la ville. Est-ce que l'urbanisation en Chine a une relation avec l'émergence des pratiques démocratiques? Alors, et si on revient aux campagnes, où en est aujourd'hui le statut justement du rapport des paysans à leur terre? Parce qu'une des raisons quand même de la dépendance extrême dans laquelle ils étaient à l'égard des petits chefs locaux, c'était quand même, il m'a semblé, le fait que ceux-ci étaient en position de leur retirer le droit d'usage qu'ils pouvaient avoir sur les terres qu'ils exploitaient. Mmh. Et puis, une troisième question qui s'adresse plus à Jean-Luc Domenac, puisqu'il a fait la comparaison avec l'Union soviétique. Est-ce qu'il n'y a pas une spécificité chinoise par rapport à l'URSS, qui est la durée, effectivement, du régime communiste, qui a duré, au fin de compte, si on pense, puisque étant moi-même né le jour de la proclamation de la République populaire de Chine, je connais bien la date. Ça a duré quand même de 49 à, bon, à peu près à Deng Xiaoping. Et donc, tandis qu'en URSS, ça a quand même duré beaucoup plus longtemps. Ça a duré plus d'une génération, pratiquement deux générations. Et donc, il y a des transmissions, il y a des souvenirs, etc., qui s'effacent nécessairement.
Bien. Peut-être sur le confucianisme, tu peux... La manipulation du confucianisme.
J'ai fait un peu allusion très rapidement. C'est ce courant voyant dans le confucianisme le fondement d'un nouvel humanisme. Ça date de 58 et ça s'est développé. Et maintenant, il s'est développé une fondation Confucius qui a beaucoup d'exister. Ça existe à de nombreux endroits. Ça joue un rôle réel. Je pense qu'effectivement, c'est assez ambigu, parce que ça permet autant de justifier l'hégémonie du parti qui exerce sa tutelle, le parti devenu sage, hein, Chunze, quoi, pratiquement. Donc ça, c'est plutôt manipulé dans un sens autoritaire. D'autre part, ça développe des idées comme le respect d'autrui, etc., des valeurs qui sont profondément humanistes. Donc c'est ambigu.
Et quand même, cette notion d'harmonie, de société harmonieuse... Dans un sens, ça amène à rigoler un petit peu, parce que quand même, est-ce que c'est pas une société vraiment harmonieuse qu'une société violemment inégalitaire comme la société chinoise actuelle ? Mais que les dirigeants chinois vantent l'harmonie est quelque chose d'absolument révolutionnaire, compte tenu de ce qu'a été le XXe siècle dans ce pays-là, y compris à cause du communisme chinois.
Et puis c'est la critique de la prééminence de la lutte des classes,
absolument,
qui était au cœur même du maoïsme.
Absolument.
Donc
absolument.
Le rossier, l'harmonie qui est conseillée. Absolument. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent.
Absolument.
C'est des choses toujours un peu ambiguës. Bon, ça c'est mon premier point. Deuxième point, je vais être très...
Vas-y.
Il y a un autre point sur lequel j'avais quelque chose à dire, je ne sais plus quoi d'ailleurs.
Tu réfléchis pendant quelques temps.
Si, non, ça y est. La question du statut des paysans, oui, c'est une question importante et complexe, parce que les paysans ne sont pas propriétaires de leurs terres. C'est vrai, ils n'ont qu'un droit d'usage. C'est vrai qu'il y a une poussée pour qu'ils obtiennent la pleine propriété de la terre. On en discute à l'Assemblée nationale populaire régulièrement. Pourquoi ils ne l'obtiennent pas ? L'argument des autorités, qui n'est pas négligeable, c'est de dire que si on leur donne pleine propriété, ils vont vendre leurs terres, et la Chine, qui manque déjà de terres, 100 millions d'hectares à peu près, va se trouver dans une situation de pénurie. On maintient la possibilité pour les cadres de moduler, avec évidemment tout ce que ça ouvre comme possibilité.
Dis donc, tu ne crois pas que tu as un argument très optimiste là ? Tu ne crois pas que ça sert surtout la propriété de la terre ?
C'est clair que tout ça permet aux cadres, ça permet toute la corruption, tout ce qu'on veut. C'est une évidence. Mais. C'est une certitude, pardon, pour l'évidence. Mais donc, ça demeure quelque chose qui n'est pas, pour le moment, on est bloqué là-dessus. Alors qu'on a reconnu la propriété des biens à la ville, et on a considéré que le droit de propriété était à protéger, c'est pour les biens capitalistes, à la limite, à la ville, avec là aussi une nuance. Parce que ces biens capitalistes, ça renvoie au capitalisme chinois qui est quand même très ambigu. C'est un capitalisme qui est souvent né de sociétés dérivées, de sociétés d'État, dont la propriété totale n'est pas tout à fait claire. Et avec les discussions avec les sociétés étrangères, d'ailleurs, ça pose un énorme problème. On ne sait pas très, très bien comment définir cette propriété. D'ailleurs, la Chine n'a pas vraiment dans son droit la pleine notion de propriété. Ça renvoie à des problèmes juridiques qui me dépassent. Mais notre conception de la propriété pleine et entière, il semble que ça n'est pas dans la tradition chinoise juridique. Alors, donc là, il y a problème. Alors,
l'universel.
Oui, peut-être juste sur la propriété des paysans. Je crois qu'il y a quand même des éléments de protection du droit d'usage, précisément, de la terre. Oui. Dans la loi de 2007 qui a suivi la réforme constitutionnelle de 2004, il commence à y avoir des éléments. Donc on n'est pas au bout, en tout cas, de l'évolution en ce qui concerne les droits des paysans, parce qu'il y a eu, là aussi, beaucoup de mouvements et de protestations. Donc, il y a déjà des éléments, je crois, dans cette nouvelle législation de 2007. Oui, alors, sur la question de l'approche culturelle, effectivement, il ne faut pas écarter l'approche culturelle. Elle n'est pas contraire à l'universalisme. Vous savez, maintenant, du point de vue juridique, on a deux textes à appliquer simultanément. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, et la convention UNESCO de 2005 qui fait de la diversité culturelle patrimoine commun de l'humanité. Simplement, on n'a pas le mode d'emploi dans ces deux textes. On doit appliquer les deux. On doit donc combiner la diversité culturelle avec l'universalisme. Ça veut dire qu'il faut arriver à bâtir. On en avait beaucoup parlé au Collège de France avec mon collègue Descola. Arriver à bâtir un universel pluriel. Lui, il appelle un universel relationnel. Relatif, donc, parce que mettant en relation les différentes cultures. Ce que je dirais simplement, c'est que pour que ce fameux dialogue des cultures, c'est une expression un peu facile qu'on emploie à tout bout de champ, pour qu'il y ait un véritable échange, il faut d'abord que chacun soit très est une identité culturelle très forte. Pour que les cultures puissent dialoguer entre elles, il faut retrouver sa propre identité avant de dialoguer. Donc là, la question, elle est vaste, elle ne concerne pas que la Chine, elle concerne toute cette vision qui accompagne la mondialisation d'un universel qui ne soit pas un universel hégémonique, imposé, qui soit un universel pluriel, par échange, par réciprocité. Et ça, ça ne passe pas par l'éradication des cultures, mais au contraire par une prise de conscience.
Merci. Je dis juste un mot sur Chinurse. Ensuite, je donnerai la parole à la montagne, c'est-à-dire à ceux d'en haut, et vous aussi, monsieur, tout à l'heure. Mais d'abord, juste un mot à Philippe Frémaux. Ce que je dis, c'est seulement que les modèles chinois et soviétiques de communisme ont été beaucoup plus proches qu'on ne le dit souvent, en bonne partie par le fait que le Parti communiste chinois, avant 1949, s'est surtout occupé, et on le comprend, de prendre le pouvoir. Et quand il est arrivé en pleine guerre froide, et à ce moment-là, évidemment, il s'est beaucoup, beaucoup inspiré du vainqueur de Stalingrad, hein, pour dire les choses rapidement. En revanche, je crois que ce que vous dites est très profondément juste. La grande différence, c'est que l'Union soviétique s'est épuisée elle-même, tandis que la Chine a conservé, le régime chinois a conservé une vigueur qu'elle a reversée dans un développement économique capitaliste, si vous voulez. Mais quand même, le noyau, le cœur, disons, néo-stalinien du régime ne s'est qu'en partie effacé, lentement, et avec beaucoup, beaucoup de prudence. Et on pourrait conseiller à certains hommes politiques occidentaux de méditer la formule de Deng Xiaoping pour traverser la rivière. Il faut marcher sur les pierres. Voilà. C'est-à-dire qu'on va dire que c'était, ils ont travaillé avec une prudence et une de chat, quoi, et qui était le garant de la solidité de la transition.
Et le chat qui prend des
voilà, coups. Voilà, tout à fait. Donc voilà. Alors maintenant, on va prendre les questions de la montagne d'abord, et monsieur, je vous ai repéré ensuite, et aussi. Ah. Bon, on y répondra tout à l'heure. Bon. Alain, tu t'y mets.
Oui, d'accord.
Tu t'y colles.
C'est bon. En fait, c'est deux petites choses. La première, c'est par rapport à la notion de démocratie. Est-ce qu'il y a un modèle unique à exporter ou pas? Je crois que dans les débats d'hier, on a bien montré qu'à l'intérieur même de l'Occident, quand la France a essayé d'exporter son modèle avec Napoléon en Allemagne, en Italie, etc., il y a eu des résultats qui n'étaient pas exactement les mêmes qu'en France. Donc peut-être la vision jacobine à la française, je crois qu'il faudrait penser qu'il y a d'autres manières d'avoir la démocratie. Mais là où j'ai un petit peu paniqué avec M. Domenech, c'est lorsque vous parlez de transition. Et surtout, ma question, elle est là-dessus. C'est lorsqu'on prend des modèles comme sociologie, comme Todd, ou la transition pour Todd, par exemple, c'est les sociétés sont en transition lorsque le niveau d'éducation monte, lorsque l'urbanisation monte, donc la question de l'urbanisation, lorsque les femmes travaillent, lorsqu'elles ont de moins en moins d'enfants, etc. Et là, ça, c'est le modèle transitoire. Donc la modernité et la démocratie n'est pas nécessairement l'apanage de l'Occident. C'est une évolution des sociétés humaines. Et donc, lorsque ces critères sont réunis, il y a possibilité d'aller vers ce que certains appellent la démocratie ou la modernité. Je prendrai un exemple pour vous montrer ce qui traverse les sociétés en transition. Je prendrai un exemple du monde qui semble ronflé, mais qui, en fait, il est ronflé par rapport à l'Asie, c'est le monde arabe. Je viens de ce monde. Et ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'on voit de l'extérieur, on voit la Ligue arabe, par exemple, avec 22 États, j'appellerais une ligue des dictateurs, qui se réunissent autour du président soudanais pour ne pas le remettre à la justice internationale. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe à l'intérieur de sociétés, je raconterai une anecdote très parlante. Mais il y a une semaine, la BBC qui fait un débat chaque mois qui s'appelle le Doha Debate, le débat de Doha. Et il y a une semaine, il y avait 300 personnes qui parlaient d'une motion qui disait « Est-ce que les pays arabes devraient remettre le président soudanais au monde ?» Pendant une heure de débat, avec des intervenants responsables venus du Soudan. Le chiffre, je vous le donne en mille, 55% des gens qui votaient étaient pour que le président du Soudan soit remis à la justice internationale. Donc vous voyez que les sociétés, même quand elles semblent fermées et qu'il n'y a pas, il y a quelque chose qui se passe.
Merci, monsieur. Ensuite, toujours sur la montagne, il y avait une autre.
Oui. Je crois qu'un dirigeant chinois avait dit qu'un État avec plusieurs systèmes.
Oui, bien sûr.
Mais est-ce que ça existe et fait dans les faits, et bon, Hong Kong, la Chine et autres, mais est-ce que ce système-là ne favorise pas une sorte de paradis juridique où les Chinois, où les droits ne sont pas intéressants, par exemple, bon, j'imagine les industriels, s'inscrivent dans l'État où juridiquement le plus favorable, alors qu'ils travaillent dans un État où les travailleurs n'auraient pas beaucoup de droits. Donc, on dirait, il n'y a pas égalité de droits avec plusieurs systèmes. Je dirais, comment, effectivement, les Chinois gèrent cette chose ? Aussi, la place des militaires dans le Parti communiste, voilà. Est-ce qu'il n'est pas déterminant dans les orientations de l'État ? Et ça, je crois qu'on n'en parle pas beaucoup. J'aimerais bien avoir...
Oui, ça fait déjà beaucoup de questions, monsieur.
Et dernière question. Il y a quand même maintenant, depuis quelques années, beaucoup d'étudiants chinois vont étudier à l'étranger.
Oui.
Le retour, comment s'intègre-t-il ? Sont-ils passifs ? Voilà. Contribuent-ils, etc.
Plus bas, madame, là.
Oui, merci. En vous écoutant, je me demandais s'il n'y a pas dans notre esprit d'occidentaux, quand nous regardons vers la Chine, une confusion qui tient au fait que la Chine est une construction étatique et une société organisée depuis très, très, très longtemps. Donc, il y a peut-être dans notre esprit une difficulté de penser un État quelque chose qui ressemble à un État qui dure depuis plusieurs millénaires. C'est un peu comme si l'Égypte avait toujours ses pharaons, en quelque sorte. Et deuxième grande chose que nous pouvons
donc
pas comprendre...
Donc, juste un commentaire sur votre première question.
Oui, non,
vous faites référence à l'autre, la formule du général de Gaulle.
C'est la taille démographique aussi. Ouais. Tout ça pour poser une seule question qui est: quelles seront, d'après les connaisseurs de la Chine que vous êtes, les conséquences politiques de l'enfant unique ?
D'accord.
Parce que là, on va créer des individus en Chine en très grand nombre, et c'est peut-être ça que cette construction étatique de longue durée et de la grande masse démographique n'a jamais connue. Donc, dans 20 ans, comment sera la Chine quand les enfants uniques seront au pouvoir ?
Merci. Je voulais simplement faire référence à cette formule fameuse du général de Gaulle. La Chine, ce pays plus ancien que l'histoire. Ce qui est, c'était du de Gaulle. Il y a encore monsieur qui est là, et ensuite ce sera... Et puis monsieur là, devant. Hein? Monsieur là, voilà. Et ensuite monsieur...
J'ai une modeste expérience. J'ai vécu en Chine durant 11 ans. J'ai vécu en Chine durant 11 ans et je me pose aujourd'hui la question, est-ce que je connais véritablement la Chine ou pas ? Les 11 ans ne suffisent pas. Et de ce fait, quand on parle de la démocratie, on parle de quoi ? Est-ce qu'on connaît réellement la société chinoise ou pas ? La seule chose qui est permise, peut-être parce que ce qui me dérange un peu, ce qui m'interpelle, c'est que quand je vois en Chine que la notion État-parti dans un système État-parti, la démocratie n'est pas possible. Donc il ne faut pas être trop exigeant. Il faut tout simplement comprendre pourquoi les Chinois défendent cet acquis, la notion État-parti. Et puis donc, au moins, je peux peut-être proposer, au lieu d'une démocratie, au lieu d'une dictature, une démoctature.
Merci. Monsieur là-bas, et puis ce sera tout. Là-bas.
Il est ouvert. Oui, donc comme j'ai la chance de parler en dernier, je pense que ma question va reprendre plusieurs des problèmes qui ont été posés ici. Et il me semble qu'on pourrait réunir vos analyses sous une même bannière, qui est le problème finalement de la relativité des critères de définition de la démocratie. Et est-ce que finalement il ne faut pas prendre acte de cette relativité et accepter finalement que sans avoir forcément une approche culturaliste du problème chinois, on pourrait difficilement, je pense notamment à la contribution de M. Alain Roux, on pourrait difficilement penser à une évolution démocratique de la Chine autrement que comme un despotisme éclairé. Et donc ça amène à critiquer un peu la dimension occidentalo-centrée des regards qu'on porte sur la Chine. Toutes ces questions, je tiens à préciser, je suis un immense spécialiste du domaine chinois et donc j'ai découvert ici, je crois que et donc, c'est plus une problématique générale.
Bien, merci. Il nous reste 7 minutes. Je vais donc donner la parole à chacun d'entre vous en vous demandant à la fois de répondre aux questions auxquelles vous pouvez répondre et de donner votre conclusion personnelle. Je suis confus de vous demander cet effort. Alors, Madame Delmas Marty.
Oui, alors je peux peut-être dire un mot sur les étudiants chinois qui viennent étudier en France, puisque j'en ai toujours un certain nombre. Pratiquement tous, non, pas tous, mais disons une très forte majorité sont retournés en Chine ensuite, et on reste en contact. Donc j'ai l'impression que leur passage en France et plus largement en Europe, parce qu'en fait ce que j'avais monté pour les étudiants chinois, c'était un cycle de formation sur le droit en Europe, c'est-à-dire qu'on leur enseignait les différentes familles juridiques européennes, on les emmenait dans les cours européennes, donc ils assistaient à des procès à la Cour européenne des droits de l'homme, et ils assistaient à des procès à la Cour de justice des communautés européennes. Mais dans l'ensemble, ils se sont très bien intégrés à leur retour, soit comme enseignants, soit comme avocats, soit comme hauts fonctionnaires, notamment dans le domaine international. En même temps, quand je les revois assez régulièrement, soit en Chine, soit en France, je n'ai pas du tout l'impression qu'ils aient oublié ce qu'on leur avait appris. J'ai l'impression qu'au contraire, ils essayent de le faire passer. Il y a tout un travail de traduction qu'ils font très à jour des différentes publications françaises. Donc, moi, mon expérience des étudiants chinois, mais évidemment, elle est limitée à quelques dizaines, elle est positive. Alors, peut-être que je ferai une conclusion générale qui répondra en même temps, en partie, à la dernière question, parce que moi, j'avais envie de dire, si on revient au thème même de cette rencontre, de ce forum, c'est inventer la démocratie. Alors, inventer la démocratie pour des juristes, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je dirais que c'est un défi pour tous les juristes, pas spécialement pour les juristes chinois, c'est aussi un défi pour les juristes occidentaux, parce qu'à l'heure actuelle, en 2009, inventer la démocratie, c'est d'abord prendre conscience que le droit n'est plus identifié à l'État, prendre conscience que les systèmes de droit sont devenus à la fois nationaux, infranationaux, supranationaux, et qu'ils sont devenus en même temps des systèmes extrêmement complexes. La pensée juridique traditionnelle est une pensée assez simple et pyramidale. Les systèmes de droit sont devenus interactifs et très instables. Ce qui fait que inventer la démocratie pour un juriste occidental comme pour un juriste chinois, c'est essayer de trouver des techniques juridiques qui facilitent les synergies entre les dynamiques internes et les dynamiques externes. C'est-à-dire le plan que j'ai suivi pour vous parler de la Chine, on pourrait le suivre pour tout autre pays. C'est très difficile de créer des synergies parce que les dynamiques internes dans l'ensemble sont des dynamiques assez cohérentes, qui ont leur cohérence propre, qui sont plus ou moins complètes et qui sont relativement simples, alors que les dynamiques externes sont fortement incohérentes, souvent lacunaires et extrêmement complexes. Donc il y a un changement de logique juridique qui vaut pour tout le monde. Et là, les Chinois ne sont peut-être pas si mal armés pour penser la complexité par rapport à notre tradition, à nous.
Alain, tu as tes 2 minutes.
Oui, la question sur la démocratie, moi, mon idée, la démocratie, je prends comme définition la plus large possible pour éviter l'européocentrisme, un régime qui permet aux citoyens d'être en mesure de contrôler les affaires de l'État. Ouais. Je n'irai pas plus loin dans la définition. Je ne prendrai pas, par exemple, la définition que donne Jean-Philippe Béjart, qui dit que c'est le pluripartisme, la séparation des pouvoirs et la garantie des libertés fondamentales, même si je pense que c'est difficile d'avoir une démocratie en dehors de ces éléments. J'ai pris la formule la plus large possible pour précisément éviter le piège qui nous est tendu d'européocentrisme. Bien, premier point. Deuxième point, la ville et la démocratie. Alors, c'est un paradoxe. Puisque la victoire communiste, ça a consisté à encercler la ville par les campagnes, le rôle de la... Alors, ce qui est très bizarre actuellement, c'est qu'on a l'impression que l'évolution démocratique chinoise la plus marquée est à la campagne. Il faut faire attention. Je pense qu'à la campagne, ce qui se passe, c'est que les paysans obtiennent surtout le droit de pouvoir s'organiser. Leur pouvoir politique demeure quand même limité. Ces élections villageoises sont à un niveau très bas, au niveau des décisions politiques. Tandis qu'à la ville, s'il y avait des mêmes possibilités de s'organiser, disons, montant une véritable société civile, là, on entrerait dans une évolution à la taïwanaise, le parti extérieur, le parti extérieur au parti, quoi, disons. Et ça serait beaucoup plus décisif. Donc, oui, je pense que l'évolution de la Chine, qui fait que maintenant, il y a bientôt plus du tiers de la population qui vit à la ville, 40% on dit maintenant, est un des éléments qui permet une évolution démocratique, mais pas nécessairement. Je fais allusion de ce point de vue-là à ce qui se passe, je pense à un livre qui m'a beaucoup passionné, de Chambog, sur son titre, c'est « Le Parti communiste chinois, atrophie et adaptation ». La démonstration que fait Chambog, qui est un excellent spécialiste, c'est que le Parti communiste chinois s'est atrophié, à la ville comme ailleurs, il a moins de rôle, mais qu'il a su s'adapter aux évolutions, ce qui lui permet finalement de jouer un rôle considérable, qu'il reconstruit, et c'est donc il s'est renforcé finalement. Si bien que les évolutions qui paraissent démocratiques peuvent aussi renforcer le rôle du parti. Donc je suis obligé d'être plein de points d'interrogation par rapport à la question posée sur l'urbanisation et la ville. Alors, troisième question que j'ai notée. Ah oui, Hong Kong. C'est une question très astucieuse. Je n'ai pas de réponse. Je constate, elle est très intéressante. Je ne sais, il faudrait voir si effectivement il y a une utilisation de Hong Kong comme paradis fiscal ou autre. Alors, théoriquement, il y a des précautions de prise. Figurez-vous qu'il y a une frontière entre Hong Kong et la Chine qui a été exigée par les gens de Hong Kong, hein, et qu'il y a vraiment une frontière. Alors, comment fonctionne-t-elle exactement? Je finis par une anecdote pour un peu détendre. Quelqu'un, je connais, un historien qu'on avait invité à un colloque, où il n'a pas pu venir pour maladie, c'est vraiment pour maladie, il s'appelle Garroy, qui a fait un livre tout à fait remarquable sur l'évolution du maoïsme, et très contestataire. Il est prof de fac à Nankin. Son bouquin a été édité à Hong Kong. Il est très intéressant. Il critique beaucoup le Mao, il montre sur la brutalité de Mao, l'affaire de Futian, etc. Il est même très corrosif, ce bouquin. Dieu sait que je le connais, je m'en suis servi. Quand il est allé à Hong Kong, il a acheté son livre, il se l'est fait confisquer à la frontière en entrant en Chine, Hong Kong. Et pourtant, en Chine, on le lui a confisqué. Alors, il a porté plainte, il a gagné. Aucun texte permettait la confiscation, mais il y a eu appel du parquet, je crois, et il m'a expliqué, parce que je l'ai eu au téléphone, il m'a expliqué qu'il n'est pas allé plus loin, parce que là, il avait gagné ce qu'il pouvait gagner. C'était tout. Alors, ça fait méditer sur ces problèmes de Hong Kong et de ces frontières étranges. Il y en a peut-être aussi en matière de droit des entreprises, je ne sais pas.
Bien, merci. Je crois que grâce à vous deux, nous avons essayé une... Écoutez,
il a reculé,
moins qu'avant, mais encore beaucoup, voilà. Notamment parce que l'armée ne dépend pas de l'État, mais du parti. Voilà. Alors, écoutez, grâce à vous, je crois qu'on a essayé une approche un peu lucide, modérée et ouverte sur l'avenir de la Chine populaire, mais je pense que vous aurez compris qu'on est vraiment sûr de rien. Merci.
Absolument. Ça, pour être sûr de rien...